end of the book, where she's sitting on the beach, and there's trash, and there's blue, and there's nice, and there are all sorts of people coming.
Le paradis que je voulais représenter, c'est celui qui figure à la fin du livre. Elle est assise sur la plage. Il y a là des déchets, puis l'immensité bleue et toutes sortes de gens qui se promènent. Le problème avec le paradis, c'est qu'il est fondé sur le fait que quelqu'un en est exclu. Et c'est ça le rôle de la nature. Elle exclut. On ne peut pas avoir un paradis pour tout le monde. On ne peut avoir un paradis que s'il existe un enfer pour quelqu'un d'autre.
So I was trying to suggest the heaven,
je voulais un peu suggérer
the possibility of a paradise,
la possibilité d'un paradis dont personne ne serait exclu.
La voix de la romancière Toni Morrison en ouverture de cette deuxième partie de La Grande Table avec Léonora Miano, la romancière en majesté, en grande invitée pour conclure et clore ensemble cette semaine. Suite donc de votre Grande Table du vendredi avec la romancière auteur en cette rentrée de Rouge Impératrice qui nous projette ce roman un siècle plus tard dans une Afrique réunifiée, un continent prospère où un groupe de réfugiés, les sinistrés, immigrés de la vieille Europe, se réfugient dans un entre-soi. C'est une fable politique aussi qui questionne à la fois la mémoire des peuples et nos obsessions nationalistes, nos crispations identitaires. Une fiction d'anticipation pour tenter d'envisager d'autres possibles. Catopia 2124. Est-ce que vous avez tenté, Léonora Miano, de créer ici ce que Toni Morrison vient d'évoquer, peut-être un paradis, mais un paradis pour tout le monde? Est-ce que vous avez tenté de réfléchir aux conditions de ce qui serait ce paradis?
Disons que je commence à y réfléchir avec ce texte et je vois l'aboutissement de ce travail d'écriture dans, disons, deux livres. J'ai déjà une image assez nette de ce que pourrait être le paradis, mais on le voit pas encore tout à fait dans Rouge. Ici, il est seulement esquissé. Il faut que les forces positives triomphent. Or, on voit qu'il y a quand même quelques tensions.
Alors, comment raconter ce projet politique que vous avez bâti là? Unité, paix, autonomie, que faudrait-il pour y arriver? Quelle est la force de cette utopie?
Ah, que faudrait-il pour y arriver en Afrique subsaharienne, par exemple? Ah, il faudrait une conscience de soi-même réhabilitée. Il faudrait faire la paix avec son passé. Il faudrait accepter le défi de la réinvention de soi, parce que je pense que, contrairement à ce que disent certains, le futur de l'Afrique n'est pas dans son passé, mais dans cette capacité à accepter les mutations de l'histoire et le défi d'avoir à inventer une nouvelle société. On est très tenté, en tout cas certains le sont beaucoup, d'essayer de retrouver des âges d'or qui auraient précédé la colonisation et donc de réactiver l'Afrique de ces époques. Mais justement, ces époques-là ne concernaient pas l'Afrique. Nous devenons l'Afrique au moment de la rencontre avec l'Europe. Quand je dis nous devenons l'Afrique à ce moment-là, c'est que le mot Afrique, ce nom qui est devenu celui de notre continent et le nôtre, nous est donné au moment de la rencontre. Avant ça, il n'y a pas d'Afrique. Nos ancêtres n'étaient pas des Africains. Nos ancêtres n'étaient pas des Noirs. Mais nous, nous sommes devenus ça parce qu'on a une histoire avec d'autres gens et c'est une histoire qu'on ne va pas pouvoir effacer. Donc la question d'aujourd'hui, c'est comment vivre de façon apaisée, sereine, avec cette histoire qu'on ne va pas effacer, et puis en écrire une autre, déjà pour soi-même, une autre qui fasse par exemple que les relations entre populations subsahariennes ne soient pas, marquées seulement par l'empreinte coloniale, en tout cas ce qu'on a en partage, que ce ne soit pas seulement ce stigmate de l'histoire, mais plutôt un projet qu'on mettrait en œuvre tous ensemble et qui pourrait amener une meilleure fréquentation de nos cultures entre elles, qui existent très peu actuellement, de toutes nos sensibilités, de nos spiritualités aussi, qui sont diverses. Moi, j'aime beaucoup la spiritualité. Donc voilà, ça pourrait être ça, en Afrique subsaharienne en tout cas. Mais de façon assez générale, moi je suis plutôt fédéraliste. Que ce soit en Europe ou en Afrique, je suis plutôt pour mettre les gens d'office dans une situation où ils sont obligés de considérer qu'on est tous dans le même bateau. Parce que c'est ça la vérité.
Il y a cette idée d'alliance, mais quel est, quand on est fédéraliste, il faut trouver des éléments fédérateurs, en tout cas des dénominateurs. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des points communs entre l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Cameroun, par exemple? Est-ce que ce concept d'africanité, ce mot de continent aussi africain, a encore un sens pour vous aujourd'hui?
Ah, là, j'ai une définition très négative de l'africanité, qui vient du fait que... nous ne nous soyons pas encore suffisamment appropriés justement ce nom Afrique qui nous a été donné et que nous ne l'ayons pas suffisamment donc investi de nos propres aspirations. Que peut être l'africanité dans un tel contexte, sinon une série de désordres? Mais bon, ça va demander de travailler à un essai auquel je réfléchis pour pouvoir expliquer ces choses plus avant. Mais est-ce que toutes ces régions du continent africain ont suffisamment à voir entre elles pour qu'on les mette ensemble comme ça? Je pense que le roman présente bien deux visions du panafricanisme. Une qui considère que effectivement il y a des différences très marquées et qu'il faut travailler à trouver des raisons, comment dire, objectives, et il y en a, d'être ensemble. Et il y a l'autre vision, alors cette vision-ci c'est celle d'Ilunga, qui est le chef de l'État, et puis il y a l'autre vision qui est celle d'Igazi, qui est son ministre de la Défense, on va dire, et qui lui fonde le panafricanisme sur des questions, on va dire, identitaires et raciales. Je pense que cette vision-là est un petit peu pervertie dès l'origine, parce que c'est faux. C'est faux, surtout sur un continent où les gens ne se sont pas envisagés de façon raciale et où, effectivement, le Kikuyu du Kenya ne se sent pas d'office proche, je ne sais pas, moi, de du Douala du Cameroun ou du Moulumba du Congo. Hein. Donc, il faut qu'ils trouvent des raisons objectives de travailler ensemble. Et elles existent. Mais Rouge Impératrice ne fait pas de réel politique. C'est un roman qui essaye de proposer d'abord une vision afin que justement nous puissions discuter concrètement du projet dans les espaces où ça doit se faire.
Projet qui fait encore débat. Il y a 3 ans, le Sénégalais Felwine Sarr publiait Afrotopia. En parallèle avec Achille Mbembe, il lançait à Dakar les Ateliers de la Pensée où vous étiez pour cette première édition. Est-ce que l'imagination doit aujourd'hui résolument se tourner vers l'avenir? Est-ce que pour aller de l'avant, il faut s'interdire d'une certaine manière de relire le passé, toujours dans les mêmes termes? En tout cas, il faut chercher d'autres mots, d'autres définitions pour parvenir à ce que Felwine Sarr appelle, et que vous faites un peu dans votre roman, une sorte de synthèse heureuse entre les origines et les apports extérieurs.
Il faut continuer à fréquenter le passé, on ne peut pas en faire l'économie. Mais il faut pas s'enfermer dans le dolorisme et il faut éviter toute fidélité trop marquée au ressentiment, hein, parce que c'est souvent ça le problème. Considérer que aller vers l'avenir, ça voudrait dire avant tout rendre les coups, hein, par exemple, se venger. Et donc quelque part faire du tort aux autres, puisqu'on nous a fait du tort, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps et surtout c'est quelque chose qui vous dégrade. Vous ne pouvez pas vouloir rendre ce qui vous a fait souffrir. Donc il faut créer autre chose et ça suppose d'avoir suffisamment bien accepté son histoire, bien la connaître, et l'avoir suffisamment bien accepté. Je pense qu'on peut arriver à ce stade et qu'il faut simplement qu'il y ait suffisamment de gens qui le disent, que nous ne sommes pas morts, que nous avons traversé tout ce qui nous a été fait et que ça doit bien vouloir dire quelque chose.
Et il reste des éléments, des ingrédients de cette histoire qui ne se conjuguent pas encore au passé. C'est le cas notamment du franc CFA, qui est un héritage colonial ou post-colonial. Cette monnaie qui a été créée il y a 80 ans par les Français, toujours utilisée dans plusieurs pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire notamment, avec une retenue sur les exportations due à la Banque de France. Il y a des pays d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui veulent changer de monnaie. Sur fond de crise migratoire, le ministre italien et membre du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, en janvier dernier, dénonçait cette mainmise de la France à travers la monnaie. Écoutez.
Se vogliamo continuare a parlare degli effetti, continuiamo con la retorica sui morti
in mare. Si on veut continuer à parler des effets, on ne continuera à parler que de façon théorique des personnes mortes dans la mer. Un fait qui, de toute évidence, est une tragédie pour laquelle j'exprime mes condoléances. Ceci dit, il faut aborder les causes. Si aujourd'hui nous avons des personnes qui partent de l'Afrique, c'est parce que certains pays européens, avec la France en tête, n'ont jamais cessé de coloniser l'Afrique. Il y a une dizaine d'États africains où la France imprime sa propre monnaie, le franc des colonies. Et c'est avec cette monnaie que l'on finance la dette publique française. Si la France n'avait pas ses colonies, car c'est ainsi que ces États doivent être appelés, les colonies africaines qu'elle est en train d'appauvrir, elle serait la 15e force économique du monde. Par contre, elle est parmi les premières forces économiques au monde grâce à ce qu'elle manigance en Afrique. Alors je ne voudrais pas faire l'hypocrite en parlant comme tous les autres, seulement des effets, mais j'ai plutôt décidé de commencer à parler exclusivement des causes. L'Union européenne devrait sanctionner tous les pays, comme la France, qui sont en train d'appauvrir les États africains et qui donc font partir ces personnes, car la place des Africains est en Afrique et non au fond de la mer Méditerranée.
Voilà, je ne sais pas si le ministre italien est le meilleur avocat de ce pays.
On n'a pas envie d'être d'accord avec lui, mais bon.
Mais un peu quand même.
Il n'a pas été tellement contesté en France, on n'a pas tellement démenti.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste des instruments de la colonisation aujourd'hui toujours actifs?
Oui, ça veut dire ça, mais ça veut dire surtout, alors je ne vais pas me faire des amis en disant ça, Ça veut dire aussi qu'il y a une espèce de servitude volontaire, parce que la France n'a aucun pouvoir démiurgique. Les Africains sont tout à fait en mesure de prendre des décisions, et surtout s'ils le font collectivement. Je crois que si les 14 pays qui ont en usage le franc CFA avaient voulu déjà il y a longtemps quitter cette monnaie, ils l'auraient fait. Je ne vois pas du tout ce que la France aurait pu faire. C'est-à-dire que les monnaies coloniales ont existé dans d'autres pays qui les ont quittées, qui les ont abandonnées, notamment les pays du Maghreb, il y a longtemps. Voilà, donc c'est aussi une question de prise de responsabilité, d'acceptation de l'exercice de son propre pouvoir. Donc il y a une partie de l'Afrique subsaharienne, la partie francophone, qui a décidé de déléguer son pouvoir à la France parce que c'est confortable aussi, quelque part. Et que c'est une relation qui est très très complexe à analyser parce qu'elle est faite de toute cette histoire coloniale, politique, mais aussi de beaucoup d'affects. De beaucoup d'affects et très, très troubles. Il y a de l'amour, il y a de la haine, mais il y a beaucoup d'affects. Un grand attachement de part et d'autre, c'est pas une histoire complètement rationnelle. Parce que si ça n'était que rationnel, le franc CFA n'existerait pas. Et ce qui est proposé actuellement en remplacement de cette monnaie, notamment en Afrique de l'Ouest, l'éco, ce serait autre chose que un habillage du franc CFA par un nom nouveau. Parce que c'est ça, sur le fond, ça ne changera pas tellement. Mais c'est encore une fois parce que les Africains sont d'accord. Moi, je pense qu'il n'y a pas de liberté sans prise de responsabilité. Et je fais pas partie du... J'appartiens pas à la tribu géniarde. J'aime les miens avec exigence.
Il ne faut pas jouer non plus peut-être avec ces affects. On a le sentiment que c'est encore le cas aujourd'hui, ou surtout qu'il y a les résidus d'un système qui reste encore ancré et qu'il n'est pas si simple dans toute sa complexité à faire disparaître. En novembre 2017, à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso, c'était devant un public étudiant qu'Emmanuel Macron avait pris la parole.
Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation.
C'était son premier discours sur le continent. Vous l'avez entendu ou interprété comment, Léonora Miano?
Ouais, je l'ai trouvé très très détendu, un peu irrespectueux, mais il est jeune. Hein, il est plus jeune que moi. Donc... Mais sur le fond, là, il n'a pas tort. C'est-à-dire que souvent, dans cette partie de l'Afrique, nous avons des désirs contradictoires. À la fois, nous voulons notre autonomie pleine et entière, notre autodétermination, et nous attendons toujours beaucoup de la France. En tout cas, certains d'entre nous sont toujours en train de réclamer à la France, ceci ou cela. Donc, il va falloir régler ce problème. Et ça se règle pas du côté français, ça. Ça se règle à l'intérieur de nous. De toute façon, je pense vraiment ça, que ce qui peut détruire une société est d'abord au sein de cette société. Ce qui la fragilise et ce qui permet donc que l'extérieur puisse avoir sur elle une emprise. Et donc moi, je suis très tourné vers l'intérieur et vers ce qui rend possible l'éventuelle domination de l'étranger. Encore une fois, voilà, la France est peuplée de gens comme nous. Ils ont le même système cognitif. Enfin, ils nous sont pas supérieurs. Donc, on devrait pouvoir arriver à gérer nos affaires nous-mêmes. Mais le veut-on? Le veut-on? Le veut-on vraiment?
Alors j'en reviens à cette Catopia, ce continent Catiopa que vous imaginez pour ce roman, Léonora Miano, qui est donc dans son nom même porteur d'une utopie aussi. Vous l'avez bâti comment, ce projet politique? Qu'est-ce qu'il faudrait pour imaginer un continent africain heureux, fier de lui-même, qui puisse aussi être autonome, comme vous le décrivez?
Mais d'abord, ça se prépare, ça se fait pas du jour au lendemain. On voit que les personnes qui mettent en œuvre ce projet d'unification d'une grande partie du continent africain,
ça se fait sur plusieurs générations.
Voilà, sur plusieurs générations, ouais. Parce que justement, il a fallu d'abord apprendre à se penser différemment, hein, à pas demander au président de la République française de résoudre les problèmes d'électricité. Par exemple, voilà, se penser différemment, et ça prend du temps, parce que il y a des représentations de soi négatives qui ont été intériorisées, et que si on ne règle pas cette question-là en premier, évidemment, on ne peut régler aucun autre problème, puisque le monde qu'on bâtit autour de soi émane de la vision qu'on a de soi, les rêves qu'on fait pour soi-même ont à voir d'abord avec ça, hein, avec ce qu'on croit être. Donc il faut régler cette question. Donc effectivement, on a travaillé durablement à régler cette question, et ensuite on s'est mis aux travaux pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, puisque on va pas pouvoir demander gentiment aux multinationales de partir comme ça, elles vont pas le faire. Bien, dans le livre, on dit qu'ils l'ont fait par la force. Dans le livre, ils l'ont fait par la force. Encore une fois, c'est pas de la réelle politique. Les politiques répondront à la question comment il faut faire. Mais on est soumis sur ce continent à beaucoup d'accords internationaux, par exemple, qui sont pour les populations des accords iniques parce que ils les privent de leurs ressources. Alors un accord même international, c'est un contrat. Donc on doit pouvoir y mettre un terme, et c'est ce que les gens qui dirigent ce Catiopa unifié ont fait, parce que il fallait récupérer ce qui est à soi. Et donc pour eux, ça passe aussi par une phase un peu d'autarcie. Alors ça, j'ai choisi de le mettre en place dans le texte parce que j'ai vu que ça revenait beaucoup dans la pensée des jeunes gens en Afrique quand on parle d'avenir avec eux. Ils sont convaincus que pour retrouver des forces, se protéger et être à nouveau capable d'affronter le monde, il va falloir passer par une phase un peu de clôture comme ça. Donc je l'ai intégré pour voir si moi-même j'y croyais et puis pour voir surtout, puisque je vais poursuivre le travail sur cet espace, voir si je pouvais tenir ça longtemps. Alors que je suis tellement, comme diraient les gens d'extrême droite, tellement mondialiste.
Et vous pensez aussi la question technologique à travers ce projet. Vous pensez aussi la question écologique et environnementale.
Oui, oui, puisqu'ils sont des questions fondamentales aujourd'hui.
Aujourd'hui et demain encore plus.
Encore plus. De toute façon, on voit dans le texte que le continent a perdu un peu de sa superficie à cause de l'érosion côtière qui est d'ores et déjà à l'œuvre. Donc on a une partie de la côte atlantique qui a un peu disparu. Et je pense qu'il y aura d'autres drames et qu'on n'y fait pas suffisamment attention.
Léonora Miano est notre invitée jusqu'à 13h30. Pour l'heure France Culture, il est 13h17.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Une société forte, prospère et autonome doit aussi savoir accueillir. C'est cette question de l'accueil, des identités, de la diversité que vous posez également dans ce roman, Léonora Miano. Alors ça pourrait se résoudre très simplement avec une réponse qui serait faite aux nouveaux arrivés, comme celle qui a été faite une fois en France. Là, Katiopa, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est ce que le chef Ilunga adresse à ces nouveaux compatriotes qui ont du mal à s'intégrer à un moment. Mais on peut aussi imaginer d'aller voir plus loin. C'est ce que vous avez tenté de faire à travers un renversement dans ce roman. Comme aujourd'hui, des migrants quittent le continent africain pour venir sur le sol européen chercher refuge. Dans votre roman, ce sont des Européens, des migrants de la vieille Europe qui viennent se réfugier dans ce nouveau continent, sur ce nouveau continent prospère qu'est la Katiopia. Les sinistrés, écrivez-vous, avaient établi leur résidence dans un univers parallèle, leur procurant réconfort et sécurité. Les plus radicaux n'exprimaient pas ouvertement leur détestation du monde qui les entourait. Revendiquer, faire entendre sa colère dans l'espace public, c'était encore reconnaître que l'on entretenait avec les autres une relation même viciée. Se cantonner à des espaces communautaires, c'est tourner pour jamais le dos à ceux dans lesquels on refusait de voir des semblables. Cette colère, vous l'avez, vous, entendu, cette saine colère, s'exprimer récemment en France, l'importance de donner de la voix pour certains qui ne se sentiraient pas totalement là, mais qui décident encore de porter cette parole dans l'espace public.
Oui, bien sûr. Alors, la question des minorités est de plus en plus prégnante dans la société française et elle est mal accepté parce que c'est une société qui ne voulait pas se voir comme ça multiple sur le plan ethnique, mais aussi sur le plan des sensibilités, notamment à l'histoire de la société et à sa manière d'exprimer son identité. Mais la France est un pays particulier, donc elle peut pas demander à ces minorités ce que d'autres pays pourraient leur demander. Ce pays-ci se déploie sur 3 océans. Hein? Donc ça veut dire que ce qu'on oublie souvent quand on aborde ces questions, ça veut dire que la France n'est pas uniquement européenne. Même s'il n'y avait pas d'immigrés en France, il y aurait des populations de l'océan Indien, d'Amérique du Sud avec la Guyane, des populations de la Caraïbe avec les Antilles. Et tous ces gens ne sont pas des Occidentaux et ils vont pas le devenir. Donc la France d'office, c'est un pays qui n'est pas uniquement occidental et qui doit donner la place à toutes ses présences. Quand, par exemple, le pays définit son identité, il peut plus la définir comme uniquement européenne. Moi, j'attends une Marianne qui est les traits d'une femme kanak, pourquoi pas, ou d'une femme amérindienne de la Guyane française. On n'a jamais vu ça. Quand il y a le défilé du 14 juillet, moi j'aimerais bien voir toutes les populations qui font la France, et pas seulement l'armée, que ce soit pas juste un défilé militaire. Donc il faut faire la place, non seulement à toutes ces présences, mais aussi à ce qu'elles portent en termes de culture, et à leur manière de voir l'histoire, leur vécu de l'histoire. Ces populations qui ne sont pas issues de conquérants ont une lecture de l'histoire qui n'est pas la même que tout le monde, et il faut voir comment on arrive à concilier tous ces discours pour écrire ce qu'est la France, voilà, la France de demain, qui ne pourra pas... Enfin, je n'imagine pas que on renonce à la Guyane et que demain on aille lancer Ariane depuis la Creuse. Je pense que ça n'arrivera pas. Et donc il faut faire quelque chose quand même pour que tout le monde se sente pleinement, même pas accueilli. Les gens n'ont plus à être accueillis, ils sont chez eux.
Sauf qu'il y a ici, en France, et au-delà, parce que ce sont des idées qui sont aussi en train d'essaimer des peurs engendrées par cette arrivée. Et on appelle ça cette idéologie du grand remplacement, défendue par divers groupes et intellectuels en Europe aujourd'hui. On va écouter un extrait d'un clip promotionnel de ce mouvement identitaire en Allemagne.
Nous nous battons contre le grand remplacement. Nous ne sommes pas sans cœur, mais nous ne sommes pas non plus sans cervelle. Nous combattons les causes de la crise actuelle, la globalisation et l'uniformisation du monde. Tous ceux qui ont exploité des peuples du monde entier durant des décennies et qui aujourd'hui se présentent comme des sauveurs. Nous n'acceptons plus l'hypocrisie de l'establishment de gauche. Sortez de votre zone de confort et regardez-vous dans le miroir. L'amour de notre propre identité est la clé de notre succès.
En inversant les représentations, en opérant cette inversion dans votre roman, Léonore Amiano, vous, ce sont aussi ces discours et cette pensée que vous vouliez combattre ?
Ah, combattre peut-être pas, mais en tout cas interroger, parce que je suis... Alors le discours allemand est un peu différent du discours français. Hein. On entend rarement les tenants du grand remplacement en France... mentionner clairement que il y a eu de l'exploitation et que peut-être c'est cette exploitation qui fait venir les gens aussi. Il y a eu de la domination épistémologique qui fait venir les gens aussi. Ce sont pas seulement leurs conditions actuelles, c'est aussi le monde qu'on a façonné pour eux, puisque l'Europe de l'Ouest, en se déversant sur la planète, l'a complètement aussi reconfigurée. Mais si vous voulez, moi, ce qui m'étonne beaucoup dans ce discours, c'est justement la peur que vous avez évoquée, cette peur de l'autre, quand on appartient à une civilisation qui a conquis le monde. Et qui, même si elle a aujourd'hui des compétiteurs sur le plan technologique, militaire, économique, reste absolument dominante sur le plan épistémologique, à un point tel que on ne peut la combattre manifestement qu'avec les armes qu'elle a forgées. Ça s'appelle un triomphe. Et quand on a à ce point triomphé, je ne comprends pas qu'on refuse de payer le prix du triomphe. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Ce dont ils se plaignent d'être envahis, de voir leur culture dissoute. Bah, vous avez voulu, vos ancêtres ont voulu posséder le monde, mais vouloir posséder le monde, c'est s'exposer à être possédé par lui. Et c'est ça qui arrive. Et quelle devait être la suite de cette aventure de ces conquêtes, sinon ce qui arrive aujourd'hui? On a fabriqué à travers le monde des gens qui ont rêvé d'Occident. Des gens qui, quand ils se déplacent, en tout cas pour certains d'entre eux, qui ne sont pas la majorité, par exemple si on parle des Africains qui se déplacent, plus de 80% d'entre eux restent sur le continent africain. Mais les autres, ceux qui viennent ici par exemple, c'est aussi parce qu'on a planté en eux un désir, une sorte de rêve donc de connaître cet endroit, plus qu'un autre, puisque c'est ici qu'ils viennent. Et comment ne pas se rendre compte que voilà qu'on a une responsabilité là-dedans et qu'on en a bien profité. hein, de cette domination intellectuelle et sensible.
Mais cette domination, elle s'est aussi faite sur une hiérarchisation des humanités, sur une catégorisation des
hommes.
Vous revenez d'ailleurs souvent sur cette question des catégories raciales, blancs, noirs, des catégories peut-être inutiles et réductrices, en tout cas assurément à vos yeux aujourd'hui. Il y a un travail très intéressant qui a été fait récemment par une historienne afro-américaine, Nell Irving Painter, qu'on recevait autour de notre grande table. Cet ouvrage s'appelle Histoire des Blancs, et elle s'est attaquée, elle, à cette impensée de la question blanche. Elle retrace dans ce livre une histoire intellectuelle de la blancheur comme construction sociale, politique et culturelle. Je vous propose d'en écouter un extrait.
C'est une manière de parler des Blancs qui les assimile tous dans un seul groupe.
And that was very powerful. Malcolm X was the second
ça, c'était très puissant comme notion.
Malcolm college campuses.
X était le second orateur favori des étudiants sur tous les campus des universités.
So his thought was assez puissant.
Ses conférences étaient très puissantes et influencé beaucoup de gens. Il a influencé beaucoup de gens sur le plan politique.
White man, the white
et quand
devil.
Malcolm X disait l'homme blanc, le diable blanc,
and he didn't break them down at all. And to,
il ne faisait pas de distinction entre tous ces blancs.
Some white people who said, This is in the 1970s.
Réponse, oui, ça c'était dans les années 70.
They said, oh, we're not white, we're Irish. We're not white.
Et les blancs auraient rétorqué, ah, mais on n'est pas blanc, on est irlandais, on n'est pas blanc, on est italien, on est grec, on n'est pas blanc.
Voilà, remettre de la nuance, mais aussi travailler sur la question des identités aujourd'hui encore, montrer comme elles sont multiples et diverses et influer sur les représentations.
C'est très important. C'est très important parce que c'est ça qui est le ferment, c'est ça qui maintient le racisme dans nos sociétés aujourd'hui. C'est que les gens ont hérité de représentations anciennes qu'ils n'interrogent pas, mais qui pour eux sont la vérité et légitimes donc de certains actes. C'est un travail qui n'est pas si difficile à faire, mais c'est un travail sérieux et qui doit être entrepris avec l'idée vraiment du bien-être commun. Voilà, l'idée du bien-être commun, l'idée des enfants qui grandissent aujourd'hui et du monde qu'on veut leur laisser.
Et c'est un travail que vous allez continuer à faire, Léonora Miadec, oui, que vous avez déjà bien entamé dans vos précédents romans et dans ce Rouge Impératrice qui paraît chez Grasset et qui aura donc probablement un tome 2 et un tome 3.
Sûrement.
Pour la trilogie.
Sûrement.
Merci mille fois d'être venu fermer cette semaine de la Grande Table avec nous. Et un grand merci à toute l'équipe de l'émission qui a préparé et programmé cette semaine encore la Grande Table. À Maya Neskovic, oh, un an de plus, joyeux anniversaire. À Oriane Delacroix, bon anniversaire Maya, à Laura Dutèche-Pérez et à Henri Leblanc. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard. À la technique, c'était Cindy Le Grumelec et à la vidéo, Jean Guilhemage. Tout cela avec l'aide précieuse de François Béus et de Sophie Marty. Je vous souhaite un très bon week-end sur France Culture et rendez-vous lundi.